c'est reparti pour un nouvel épisode, le troisième de Dimanche Dépression. On est dimanche, on est toujours en compagnie du fabuleux, l'incroyable barbu Laurent, qui est en train toujours aussi d'avoir la tuberculose.
Ça change pas.
Et de la sublime, de l'excellente, de l'incroyable, de la malaisante Marine. Comment ça va, Marine?
Ça va, et toi?
Bah écoute, oui, pas trop mal. Prête à parler des ruptures amoureuses? Il t'est arrivé des trucs dans ta vie, toi?
Ouais.
Ouais, non, t'as jamais été amoureuse, t'as jamais rencontré d'hommes, t'as jamais rencontré de femmes.
Des hommes. Toujours des hommes.
Toujours des hommes. Ça a l'air triste comme conseil.
Bon, comme d'habitude, on va faire les rubriques habituelles. Hein. On est bien d'accord, on va parler d'abord des chiffres. Donc là, c'est moi qui m'attellerai les chiffres. Après, vous aurez la superbe chronique de Laurent. Laurent, tu vas nous faire ta chronique sur quoi cette semaine?
Pourquoi c'est cool de rompre?
Ah oui, toi, t'as pris un parti pris complètement fou, quoi. Oui,
exactement. Alors, c'est le live de la maladie. On va essayer de ne pas vous refiler nos microbes en toussant trop fort dans les micros.
Ensuite, il y aura la seconde chronique qui sera faite par moi. Et on parlera de comment faire le meilleur message de rupture pour faire en sorte qu'on soit bien compris et que ça se passe bien. Et enfin, on terminera sur un petit retour sur expérience où on parlera de nos ruptures, de notre façon de les avoir appréhendées. Voilà. Ensuite, nous finirons sur l'instant LOL parce qu'on aime bien quand on finit sur un petit instant rigolade. Voilà. Donc, vous êtes prêts pour cet épisode? Si j'arrive à lancer le système de jingle, oui, il est là. Si tout va bien. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Est-ce que vous avez envie de parler rupture amoureuse? Marine se sent vachement concernée ce soir.
Est-ce qu'on a envie de parler de ça?
Je sais pas si je suis un exemple, surtout.
Bon, en tout cas, on va lancer le jingle des chiffres et on va parler chiffres. J'adore ce jingle, il est fabuleux. Bon alors, les ruptures amoureuses en chiffres. D'abord, on va commencer par définir ce que c'est qu'une rupture amoureuse. Donc, la rupture amoureuse, on présuppose que ça se passe au moins entre deux personnes et qu'il y en a au moins une qui aime l'autre et qui va subir la relation amoureuse parce que l'autre s'en va. On est bien d'accord? Parce que généralement, une rupture amoureuse, c'est pas toujours les deux qui veulent s'en aller, c'est au moins une qui veut s'en aller. Et les deux sont pas forcément amoureux, on est bien d'accord aussi.
Oui, oui. Mais...
D'où rupture.
Il n'y a pas forcément des regrets des deux côtés non plus.
Exactement. Alors, en France, au regard de la loi, il y a plusieurs façons d'être en couple. D'abord, il y a en concubinage. Donc, selon l'article 515-81 du Code civil, on définit le concubinage comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, virgule, entre deux personnes, virgule, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Vous avez compris?
Alors, ce que j'aime bien, c'est que là déjà, quand tu présentes le couple, c'est déjà chiant. Donc ça va appuyer mon propos pour ma chronique. Merci.
Ouais, très bien, très bien. Tu vois, comme quoi on fait un peu un fusil de Chekhov, on prépare le terrain.
Exactement.
Ensuite, il y a Paxé. Paxé, c'est créé, en fait, ça a été créé pour reconnaître l'existence du concubinage au sein d'un couple de même sexe. Parce qu'en fait, les couples homosexuels existaient. Et on avait une loi, et en fait, il y avait un arrêté de la loi de la Cour de cassation, si j'ai bien compris, qui a dit que, en fait, on n'était pas en concubinage si on était de même sexe, d'où la loi Jospin sur le Pax. Et enfin, nous avons le mariage qui repose sur des obligations rappelées lors du jour du mariage et accessible à tous. En fait, c'est le truc que balance le maire généralement juste avant qu'on signe les contrats de mariage. Oh, je pense que vous êtes déjà allé à un mariage.
Mmh.
C'était bien. Marine, retour sur expérience, le mariage. Tu aimes le mariage? Tu aimes aller au mariage?
Bah. Non, le dernier mariage que j'ai fait, c'est bien passé. J'ai fini deux verres à la main, c'est impeccable. Mais sinon, ouais, en soi, non, c'est pas le kiff.
Ouais.
Il y a tellement d'enthousiasme, je pense qu'on pourrait faire un sujet déprime sur le mariage.
Mais attendez, on n'est pas à Dimanche Dépression. Wouh, c'est la fête. Bon, alors, combien il y a de couples en France? Déjà, il y a 23 millions de Français qui sont mariés. Il y en a 1 377 000 qui sont paxés. Et 7 169 000 qui sont en concubinage. Donc ça, c'est que des chiffres de l'INSEE. Au total, il y a donc presque 32 millions de personnes en couple. avant 31 ans, seulement 50% des couples vivent ensemble. Sachant que les couples qui vivent ensemble sont souvent des couples qui ont des enfants. Et inversement, ça c'est une stat assez folle, plus on est diplômé et quel que soit l'âge, moins on vit ensemble et plus on le conçoit de façon pérenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui sont ensemble et qui ne vivent pas ensemble et qui ont par exemple plus de 50 ans. Mmh. Quand ils sont très diplômés. Et donc nous allons venir au sujet qui nous intéresse, parce qu'on là, on parle de l'amour, mais le sujet c'est la rupture amoureuse, on est bien d'accord. Donc nous allons parler en chiffres de du divorce et de la séparation. Donc il faut être déjà clair, on a peu de stats sur tout ce qui est les concubins, tout simplement parce qu'ils n'existent pas juridiquement, véritablement, et dans les recensements, ils sont peu recensés.
Il n'y a pas de contrat de concubinage, ça n'existe pas.
Donc en 2016, il y avait 41% de célibataires, 44% de personnes mariées, 6% de veufs et 7% de divorcés. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'il y a pratiquement autant de personnes qui sont mariées que de personnes qui sont célibataires, en réalité. En France, 10 couples mariés sur 1000 divorcent chaque année.
J'ai pas compris la phrase.
En France, 10 couples mariés sur 1000 divorcent chaque année.
Ah, 10 sur 1000 divorcent.
Ouais.
Ça va ?
Les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans et les femmes 44.
De la quarantaine, quoi.
Exactement. Ce sont le plus souvent les femmes qui sont à l'initiative des divorces. Elles représentent 75% des demandes de divorce, donc pratiquement 3/4. Les causes les plus souvent évoquées sont 30% des demandes sont liées à l'infidélité, 15% dues à un comportement abusif, 15% dues à des projets de vie différents. En gros, moi j'aimerais vivre à Châteauroux, ouais, mais moi j'aimerais vivre à Montpellier, et bah voilà, boum, 15% sont liés à ça. 10% sont dits économiques, donc c'est suite à une perte d'emploi. Généralement, en fait, quand on ferme une usine, la plupart des gens qui étaient en couple se séparent, tout simplement parce que la misère, parce que plus de sous, parce que tout ça. Voilà. Ensuite, on va passer aux mentions légales. Légalement, en France, il y a 4 motifs de divorce. Alors, il y a le divorce par consentement mutuel. En gros, tu es d'accord sur le divorce et ses conséquences. En gros, je suis marié avec Marine, je trouve Marine particulièrement chiante, elle me trouve particulièrement chiant, et on décide de divorcer tous les deux parce que c'est bon, c'est plus possible. Et on est relativement d'accord sur le fait qu'elle garde son appart, je garde mon appart, et elle garde ses chats. Voilà.
Encore heureux.
Ce qui est amusant, c'est qu'il me semble que le divorce par consentement mutuel, c'est le plus récent de toutes les manières de divorcer.
Alors, je suis pas allé jusque-là dans ma recherche.
C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas d'autre recours que le procès, ce genre de choses.
Oui, c'est vrai, je crois que c'est sous Sarkozy. Et bien, justement, je pense que ça explique une stat, je crois que ça date de 2005, parce qu'en 2005, tu as un énorme boom des divorces, et c'est sûrement dû à ça. Ensuite, nous avons le divorce pour altération définitive du lien conjugal. En fait, on est d'accord sur le divorce, mais pas sur les conséquences éco et enfant. Alors, en gros, je suis marié avec Marine. Nous sommes d'accord pour divorcer, mais je ne sais pas pourquoi. J'adore son chat qui s'appelle Amphétamine. Et clairement, j'aimerais en garder la garde de lui et faire 50% sur les croquettes. Sauf que Marine considère qu'elle l'a depuis l'enfance, et que donc elle aimerait garder son gros chat et ses croquettes, et en gros, boum, divorce pour altération définitive du lien conjugal. Donc on est d'accord sur le divorce, mais pas les conséquences. Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage. En gros, c'est un divorce qui peut être demandé si les époux ne vivent plus ensemble depuis 2 ans. En gros, je suis marié avec Marine, mais elle a gardé son appart, j'ai gardé le mien, on s'est engueulé, elle a décidé de revivre chez elle, on s'est plus vu depuis 2 ans. Ou du moins, elle revit totalement chez elle. Et donc, elle dit, t'es un gros connard, écoute, maintenant on divorce. Voilà. Et donc, elle a le droit. Et enfin, nous avons le divorce pour faute. Et en gros, le divorce pour faute, c'est quand on manque à l'ensemble des devoirs. En fait, on a 4 clauses sur lesquelles on s'engage quand on se marie. Et s'il y a manquement à ces causes, on peut faire un divorce pour faute. Ensuite, peut-être la partie réjouissance. Alors, la partie réjouissante, c'est quoi ? C'est le coût d'un divorce. Combien ça coûte de divorcer ?
Et ça rapporte aussi.
Alors, justement, visiblement, ça rapporte pas mal si tu as un avocat. En gros, environ 600 euros en moyenne quand ça se passe bien. Donc, un divorce par consentement mutuel, ça coûte généralement 600 euros. En gros, entre le légiste pour faire le contrat de divorce mutuel et en gros, le passage devant le juge.
Le légiste. C'est pas
le l'avocat, quoi.
C'est vrai, parce que les légistes, c'est les gens qui dissèquent les...
Oh, ça y est, monsieur est précis dans les mots. J'ai compris. Ok. Si
bah
on
après,
est en
ça peut arriver, hein, après un divorce.
Après, si on est en conflit, il faut plutôt tabler sur plus de 2000 euros. Rien qu'à cause des frais d'avocat. En moyenne, 50% des personnes qui se séparent... Ah oui, attends. Là, je passe du coq à l'âne. Donc, en gros, quand même, ça... Généralement, c'est entre 2000 et généralement entre 2000 et 6000 euros si on est en conflit.
Oui, d'accord.
Pour, voilà, entre les frais d'avocat, les moments où on passe devant le juge et on se met d'accord. Ensuite, en moyenne, 50%, et là c'est le moment espoir, des personnes qui se séparent retrouvent quelqu'un dans les 2 ans.
Oh, c'est beau.
Mais pareil, pendant les 50% qui restent, je crois que ces 35% ne retrouveront pas quelqu'un dans les 35 ans. À venir. Okay. Donc ils resteront, quoi qu'il arrive, seuls. Parce que si tu es une femme et que tu divorces à combien, on a dit 44 ans, ouais. Bah, ça veut dire que tu ne retrouveras pas quelqu'un avant 79 ans.
Alors, il y a des couples qui se créent en maison de retraite. Ça existe ?
Oui, ça existe. Ensuite,
trop mignon.
Ensuite, je vous propose quelques chiffres pêle-mêle. Et j'ai envie de dire, c'est le moment où j'aimerais que Marine nous fasse un petit jingle. C'est dégueulasse. Parce qu'elle le fait super bien avec sa petite voix, voilà.
Ouais, mais quand on me le demande, c'est plus naturel.
Mais tu vas voir, tu vas le dire. Alors, 0,13 secondes, donc 13 centièmes, c'est le temps estimé pour un coup de foudre. Et là, attention, instant dégueulasse. 40 000, c'est le nombre de parasites qu'on se partage, qu'on s'en s'embrasse.
C'est dégueulasse.
Ça va, celui-là, il partait du cœur.
120. C'est le nombre moyen de rapports sexuels qu'un Français a dans une année.
Ouais, c'est pas gagné avec le célibat.
vous pensez en être proche ? Honnêtement, ça veut dire que vous couchez au moins 10 fois par mois.
Ne se prononce pas.
Bah, c'est compliqué en tant que célibataire. Hein. Après, si je réfléchis à mes anciennes relations, ça dépendait des périodes.
D'accord. Bon, ok. Donc, en ce moment, tu fais pas les 10 fois par mois.
Mais alors, c'est bien de poser les questions, Guillaume, mais on attend ton...
Et toi ?
Ben écoute, pour l'instant, si on s'arrête à là maintenant, statistiquement, je suis dedans. Je pense que la fin d'année va être plus compliquée. Mais sait-on jamais, on peut toujours rêver. Hein. 18, c'est en minutes le temps d'un rapport sexuel moyen.
18 minutes ?
Ouais, c'est la moyenne d'un rapport sexuel.
Ça veut dire qu'il y en a qui font moins.
4, c'est le nombre de grands amours que les êtres humains déclarent avoir dans leur vie.
Quoi ?
4.
En moyenne, tu
as... Tu as 4 grands amours dans ta vie.
D'accord.
T'as combien de chats ?
J'en ai 2 déjà.
Bon bah voilà.
Bon bah voilà, il en reste plus que 2.
Bon, j'ai déjà pas reprendre 2 chats au cas où.
Alors, enfin, je vais terminer sur cette info-là avant de lancer peut-être la chronique de...
De moi ?
De toi, oui. Toi. On dit que l'amour dure 3 ans. Et en effet, en fait, sur un plan biologique, il se trouve qu'on ne sécrète plus les mêmes hormones après 3 ans ensemble. Alors, les scientifiques ont fait une recherche et ils ont peut-être une réponse à cela. C'est qu'en fait, entre le temps où tu rencontres quelqu'un, que tu conçois un enfant, c'est-à-dire 9 mois, il y aurait un laps de temps de 3 ans jusqu'à ce qu'il devienne autonome, c'est-à-dire jusqu'à ce que son éducation... En gros, ne repose plus que sur un parent. Donc au final, pour une femme, elle peut assumer un enfant au bout de 3 ans, parce qu'en 3 ans, il est en âge de comprendre. Donc l'amour durerait 3 ans, parce qu'en effet, il y a de l'ocytocine et une autre hormone du bonheur diminuent au bout de 3 ans
À cause de la fonction reproductive de l'amour.
Exactement. Voilà.
Ne faites pas de gamins, ça gâche votre couple.
Garder des chats comme Marine. Mais t'auras pas des rapports sexuels avec tes chats. Hein.
Ah non, c'est mes bébés. Hein. Pas besoin de gosses. Hein.
C'est les amours de sa vie.
Mais, t'aimes quand il y a du poil, toi.
Non, en vrai, non.
C'est tes bébés, mais tu sais qu'il y a des gens qui font l'amour à leur bébé aussi.
Non.
Je sens que cette émission est lancée sous les chapeaux de roue. Surtout quand Marine est arrivée en disant « Je vais travailler ce soir ». Et au final, plus on avance, plus on raconte de conneries, plus elle est dedans. Bon, allez, sur ce, on va lancer la première coupure pour lancer la magnifique chronique de Laurent qui sera, comme d'habitude, un grand bonheur. C'est parti pour le jingle.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là venu pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Tu te souviens des jours. Laurent, c'est à toi.
En guise de préambule.
La tuberculose.
La tuberculose, exactement. En guise de préambule, je tiens à m'excuser. Si je désigne l'autre composant d'un couple sous des termes systématiquement féminins, faut pas y voir un sexisme de ma part. En tant qu'hétérocis, je me suis résolu, par honnêteté intellectuelle, à adopter un point de vue qui m'est plus familier. Je vais donc vous laisser admirer la qualité de cette introduction, digne d'une copie de philosophie niveau premier trimestre terminal. Depuis l'aube de l'humanité, les gens tombent amoureux les uns des autres, sans savoir comment ce phénomène se constitue. Ce que l'on sait, c'est que l'amour existe, de la même manière qu'on sait que la conscience existe, sans savoir s'il s'agit d'un phénomène strictement mécanique lié à la structure de notre cerveau ou d'un concept qui transcende le matériel. Après tout, n'en déplaise aux fans de Penny Dreadful, il suffit pas de soumettre un corps tout frais à une impulsion électrique pour qu'il se mette à réfléchir. Les limites de la vie sont ainsi mal connues par la science. On ne sait pas à quel niveau de complexité les mécanismes du vivant cessent de n'être que des mécanismes. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amibe ? Dans le cas de certains, bien peu de choses. Mais on en parlera dans une future émission consacrée à la télé-réalité. De la même manière, la science a bien du mal à définir ce qu'est l'amour. Tout comme Jennifer, 15 ans, a bien du mal à savoir si elle est amoureuse de Brandon ou d'Enzo. Ce qui est évident en tout cas, c'est que l'amour, comme la vie, a une fin. Et quand elle arrive, on se demande assez souvent ce qui est le plus tragique, entre perdre l'amour ou perdre la vie. Mais perdre l'amour, est-ce que c'est si grave ? Après tout...
Oui. Bonne question. Est-ce que la vie, c'est vraiment de la merde ? Allez, je t'écoute.
Se retrouver tout seul à manger des céréales devant Netflix, c'est génial ! On a passé un certain temps collés l'un à l'autre, à partager les tâches et à dépendre du temps de l'autre quand le nôtre manquait. Combien de fois, en quittant le boulot à la tombée de la nuit, on a pu se dire « Repas bien chaud m'attend à la maison, grâce soit rendue à Cyprienne. » Et maintenant, c'est fini, c'est tout de même vachement cool. Bon ok, je vends mal le truc, mais ça nous oblige à apprivoiser la solitude, à redécouvrir des éléments de la vie quotidienne qu'on avait oubliés, à apprendre certaines pratiques que l'autre nous avait fait découvrir et qui nous font défaut maintenant. Rompre en réalité, c'est bel et bien la solitude, oui. Mais une solitude qui nous fait voir le monde sous un nouveau spectre, plus varié, plus complet. La solitude, c'est ce colloque un peu relou qui branle rien, mais qui nous réclame sans cesse d'aller au bar pour rencontrer des nouvelles personnes. Ou qui se plaint que toujours que l'appart est dans un état lamentable et qu'il faut sortir les doigts. Se retrouver tout seul avec sa main et son rouleau de sopalin, c'est génial. On a passé un certain temps à vivre de compromis, de concessions et de privations, et finalement, tout ça n'a servi à rien, puisque le résultat est là. Le deuxième oreiller du lit est vide, et il ne sert plus qu'à étouffer nos pleurs et à étancher nos larmes. Alors, on repart à la découverte de nos envies. Et si dans un premier temps, on a du mal à vivre sans se plier aux habitudes qu'on s'est forcé à adopter, au final, on reprend conscience de ce qu'on veut vraiment. Oh, mais elle est partie, je vais pouvoir recommencer à manger du poisson. Mais c'est vrai qu'elle est partie, je vais enfin pouvoir afficher mes posters de tuning. Mais du coup, comme elle est partie, je vais pouvoir coucher avec Gertrude, la petite stagiaire de la compta. Bon, les exemples choisis sont un peu boiteux, ça ressemble plus à une crise de la cinquantaine qu'à autre chose. Mais l'esprit est là, on recommence à assumer ses envies concernant des petites choses. Et plus tard, c'est ses choix de vie qu'on va pouvoir remettre en question de nouveau. Un exemple un peu extrême, est-ce que je fais bien de continuer à travailler dans l'entreprise de son père ?
Vraie bonne question.
C'est un vrai choix de vie.
Surtout que bon ok, vas-y.
Comme j'ai dit juste avant, dans un premier temps, la vie de couple annihile les volontés particulières. Un peu comme les logiques de concurrence sur le marché du travail ou d'esprit d'entreprise en fait. Je pouvais pas décemment faire une chronique sans un passage Marx, du coup on y est. Comme en entreprise, la vie de couple est souvent une question de rapport de force. Heureusement, les individus concernés sont plus égaux que le patronat face au prolétariat et vice-versa. Il n'est donc pas question de lutte syndicale dans les relations amoureuses. Cependant, le fait de s'être fait rouler par un premier patron nous amènera à être plus prudents vis-à-vis du suivant et à mieux considérer le code du travail. De même, avoir vécu une rupture douloureuse amènera à mieux se protéger par la suite et à mieux considérer sa liberté individuelle. Comme tous les moments de crise, c'est une nouvelle étape dans l'émancipation des individus. Après s'être rendu compte que nos parents sont pas parfaits, on s'aperçoit que les compagnes qu'on choisit ne le sont pas non plus. Plus tard, on remettra aussi en question le patronat et société capitaliste dans son ensemble, mais ça, c'est un autre sujet. Se retrouver tout seul à faire caca la porte ouverte, c'est génial.
Oui, oui.
Parce que mine de rien, parmi les nombreux messages incendiaires qu'on a pu recevoir de Cyprienne, on a pu profiter d'une psychanalyse gratuite. Je sais que ça, je vais avoir du mal à ne pas, ne pas paraître sarcastique, mais au pire on s'en fout. Et donc, si vous aviez besoin de vous remettre en question et de questionner vos défauts, la rupture c'est le moment idéal. En plus, votre entourage ne manquera jamais d'apporter son petit grain de sel et d'émettre un avis non demandé. Autant en profiter entre votre analyse personnelle, les bordées d'injures de votre ex et la commisération pathétique de vos proches. Non, mais c'était pas une nana pour toi. Il te faut plutôt ouais, un truc comme ça. Bien, tu étais trop...
Un truc comme ça, tout est dit.
Tu étais trop comme ça avec elle. Gna, 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 gna. Bref. Vous avez matière à réfléchir et de quoi vous sortir du trou. Alors foncez, mieux vaut beaucoup trop tard que jamais. Ne dites donc pas que la rupture est une perte. D'accord, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on n'a jamais le dos aussi propre qu'en prenant une douche à deux. Mais vous savez ce qu'on dit sur le couple. Ça dure que jusqu'à ce que l'amour vous sépare.
Bon alors, en gros, je retiens déjà un premier point sur ta chronique. Tu dis que toute rupture nous rend en un sens meilleur. Nous rend meilleur pour le prochain couple, en gros, et pour la prochaine.
C'est pas ce que je dis. Je pense que c'est des opportunités à saisir et qu'il faut voir le verre
à moitié plein. Plutôt qu'à moitié vide. Qu'est-ce que tu veux dire par opportunité à saisir ? Parce que, oui, si je vois. En gros, tu expliques que rompre, finalement, c'est s'ouvrir à toutes les autres personnes, c'est ça ?
Pas seulement, c'est aussi s'ouvrir à soi.
Mais ça, on allait y venir. C'est un grand moment pour s'analyser, parce qu'on a à la fois l'image que nous renvoie la personne avec qui on rompt, et qui est souvent une image assez très négative, et je peux en parler... ce que j'ai vécu récemment, mais et à la fois on a aussi tous ceux qui vont dire du positif de nous, par exemple nos parents, en nous disant mais toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, et oui elle t'allait pas, etc. Ou parfois ils t'enfoncent, genre non mais tu pourrais faire un effort. Et donc à ce moment-là ça permet une auto-analyse. C'est ça que t'es en train de me dire.
C'est le quatrième point que j'ai évoqué effectivement, c'est le fait de pouvoir se remettre en question grâce à ce divorce, enfin divorce ou autre rupture.
Ou autre rupture.
Voilà. En gros, il y avait quatre points. C'est le fait de se retrouver tout seul à manger des... Non, c'est pas ça. c'est de se réhabituer
à être seul.
À la solitude, effectivement. Parce que finalement, la solitude, ça fait partie de la vie. Et qu'il vaut mieux s'y habituer maintenant plutôt que quand on sera seul en maison de retraite. Enfin, seul en maison. Enfin,
on vient à un vrai bon moment. On aborde des vrais thèmes.
Il y a le fait de faire une petite introspection pour savoir quels sont ses objectifs de vie personnels, finalement.
Oui, je veux bien.
Voilà. Il y a le fait de... où c'est que je voulais en finir avec mon truc sur Marx, parce que c'était quand même cool.
Si, en un sens, t'as fait un espèce de dialectique de maître et de l'esclave un peu hegelienne, en disant que finalement, c'est ce que je disais au
c'est
tout
ce
d'abord.
Que tu disais au tout début, c'est que dans un couple, il y a un dominant, un dominé.
Oui, pas cas, forcément, mais qu'à la fin, en fait, tu retirais toujours à la fin d'une rupture ce que tu voulais, ce que tu voulais pas dans un couple, ce que tu ne voulais plus, ce que tu voulais peut-être à l'avenir. Et finalement, tu fluctuais là-dessus.
Voilà. Donc, ça t'amène à poser des règles pour le reste, pour tes futures relations.
Exactement.
Pour vivre des relations plus saines.
Et c'est là que je relance sur Marine, qui est parfaitement attentive. Toi aussi. Alors, qu'est-ce que est-ce que tu as vécu une rupture récemment? Est-ce qu'il y a un truc que tu t'es dit, tiens, j'en veux plus?
Il y a plein de trucs.
Parle bien dans le micro, Marine, parce que.
Il y a plein de trucs. Je veux dire, ma dernière vraiment relation, c'était il y a 2 ans déjà.
Waouh! Et est-ce que ta rupture t'a rendu.
Peut-être un peu plus. Moins de 2 ans, mais oui.
Et est-ce que tu penses, comme Laurent, que cette rupture t'a rendu en un sens meilleur?
Je sais pas si c'est meilleur, mais j'ai régressé sur certains points, je dirais.
Est-ce que c'est la rupture qui t'a fait régresser ou est-ce que c'est le couple qui t'a fait régresser?
Parce qu'en un sens, est-ce que t'as pas encore appris à être heureuse toute seule?
Ah non, au contraire.
Donc, c'est pas là-dessus. Donc, c'est ton couple qui t'a fait régresser. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où tu te dis, bah tiens, plus jamais, j'ai plus envie, et voilà.
On peut dire ça comme ça.
Tu veux pas développer?
Non, mais c'est surtout quand je suis tombée.
C'est ton moment, Marine. Vas-y, c'est ton moment.
Comment dire, sur ma dernière relation, je suis tombée sur un mec jaloux, possessif, on va dire quand même misogyne, avec du recul.
Alors, il s'appelait comment déjà? Cyprien de... Ok, bon, oui, d'accord.
Et merde, qu'est-ce que je voulais dire?
Tu disais qu'il avait été, était misogyne.
Et je me suis, en qualité.
Fait, j'en étais amoureuse, ça c'était sûr, mais en fait... moi qui avais un sale caractère de base, ben je me suis vachement laissé vampiriser et j'ai tout laissé couler.
Donc aujourd'hui, tu serais...
Ouais. Pour te dire, les grosses prises de tête, c'était mes chats ou ma façon de m'habiller, mes piercings.
Ah oui, quand on te voit comme ça, on se dit comment le mec, il s'est... Pourquoi il s'est mis avec toi?
Comment il s'en est pas rendu compte tout de suite?
Enfin, je veux dire, Marine...
Mais il m'a connue comme ça. Et... Non, mais en fait, il a essayé de me faire changer à son image.
Ça, c'est un des problèmes, c'est de se mettre avec les gens, pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles pourraient être, pour ce qu'on pourrait les faire devenir.
Ouais, de toute façon, c'est toujours le même enjeu des couples, ça. On veut toujours faire changer les gens, mais on comprend pas qu'en fait, on doit les aimer tels qu'ils sont et pas chercher à les faire changer, quoi.
Mais l'aspect pervers de ça, c'est le fait que... y a des gens qui se mettent en couple parce qu'elles espèrent que ça va les changer aussi. Et voilà, c'est pas bien.
D'accord.
Il y a des gens qui veulent changer ceux avec lesquels ils se mettent en couple. Et inversement, il y a des gens qui, en se mettant en couple, espèrent que ça va les faire évoluer. Alors que ça part pas du couple, il faut que ça parte de soi.
Exactement, je suis assez d'accord. Bon, bah sur ce, on va faire une petite pause musicale. Pour la pause musicale, moi j'ai visé haut. J'ai pensé Marine, j'ai pensé les goûts de Marine, et je me suis dit, tiens, Céline Dion, tout de suite, bam, banco. Tu vois, en plus, c'est une super chanson de rupture de Céline Dion. Donc, nous allons nous écouter Pour que tu m'aimes encore, et ensuite, on enchaînera sur la seconde chronique. Marine, j'aimerais tellement t'enregistrer chanter pendant cette pause.
Non, mais je connais pas les paroles, ça va plus vite.
Non, franchement, affiche-les, on te lance. Non, non, c'était une blague. C'est une blague. Allez. Je lance la pause sonore. À tout de suite pour la seconde chronique.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, que ces doux appels, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents, d'autres dansent des heures. J'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer. Thank you. je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter.
Bière de la journée fait toujours cet effet-là.
Ouais, exactement. C'est le moment de nostalgie. Alors, moi, je vais me lancer dans ma chronique. Alors, non, ma chronique, je voulais parler des messages de rupture. Parce que j'ai été confronté récemment à un problème de réception de messages. Et on constate que, entre ce qu'on dit et ce que la personne comprend, il y a toujours une grande marge. Donc, commençons par le commencement. D'abord, rappelons un fait. La rupture amoureuse commence toujours par un message de départ d'un des protagonistes à l'autre. Donc, il y a toujours deux postures, celui qui largue et celui qui se fait larguer. Hein. D'accord. Sachant que celui qui se fait larguer, il est toujours un peu surpris par celui qui largue. Donc, nous allons passer en revue en même temps aussi, pendant, puisque je suis là à parler messagerie, message, destinataire, etc. Quelques enjeux et quelques écoles philosophiques du langage. Donc, tout message de rupture est ce qu'on appelle performatif. Alors, c'est quoi le langage performatif ? Le langage performatif, c'est un langage qui a été théorisé par un type qui s'appelle John Longshaw Austin dans un ouvrage qui dit « Quand les mots ont un pouvoir » et qui a été édité en 1962.
Tu peux redire son nom ? J'ai pas compris.
John Longshaw Austin.
Ok.
Et en fait, c'est quoi le langage performatif ? Ça revient à faire ce qu'on est en train de dire. Alors, qu'est-ce que c'est faire ce qu'on est en train de dire ? Je vous déclare mari et femme. En gros, le fait de dire je vous déclare mari et femme fait qu'on devient mari et femme. Je vous bénis. Ça veut dire qu'au moment même où on est en train de le dire, on est en train de faire.
C'est la parole qui porte l'acte.
Là, exactement. Exactement.
C'est pas descriptif.
Non, et c'est vraiment l'action en elle-même. C'est-à-dire, par contre, dire je t'informe que. Par exemple, je t'informe que les petits lapins roses vivent en Australie. Ce n'est pas un langage performatif puisque je ne t'informe rien en réalité et il est probable que l'information que je te donne soit fausse. Ce n'est pas du langage performatif. Et enfin, le langage performatif, je te quitte, est un langage performatif puisqu'on est en train de faire ce qu'on dit. Ok ?
C'est très clair.
En réalité, lorsqu'on quitte quelqu'un, le fait de le dire donc, le rend réel. No. Bon, après, on est bien d'accord que le fait de vider son appart et de ne plus donner aucune nouvelle est une autre solution. Elle est certes plus audacieuse, mais reste toutefois un message dans son absence de message. D'accord ? En gros, si tu vides l'appart, la personne, elle se doute bien que tu viens de la quitter. Ou alors...
Tu fais une très mauvaise blague.
Ou tu t'es fait choper par la Stasi, mais bon, tu vois, en un sens, voilà. Donc, la question de la rupture amoureuse pose au-delà de ce qu'elle fonde, le problème du sens. Pourquoi, quand on te dit « je te quitte » à quelqu'un, la première chose qu'il nous répond souvent est « pourquoi ?» Pourquoi tu veux me quitter ? Enfin, voilà. Enfin, qu'est-ce que je fais ?
C'est vrai que je n'ai pas connu grand monde qui répond « ah, d'accord ».
Alors, généralement, après, tu as le droit à « tu m'aimes plus ». Et d'un coup, tu as généralement aussi cette phrase qui vient très sous-jacente, genre « ouais, c'est qui l'autre, putain ? L'autre, là, hein ?» Et comment elle s'appelle, Marine, déjà ?
Ça bave.
Donc, les choix des mots est alors important. Plus que jamais, nous sommes confrontés à une réalité. Le langage est un code, c'est une convention. Donc, on impose des sens sur des phonèmes et des graphies. En gros, l'écriture, c'est un dessin sur lequel on met un son et sur lequel ce son et cette graphie, on donne un sens. C'est-à-dire que la liberté, ça s'écrit avec un L, un I, un B, R. Mais c'est une convention, hein, on est bien d'accord ?
Oui, en chinois, ça s'écrit autrement.
Exactement. C'est la différenciation que fait Ferdinand de Saussure, en gros c'est le créateur de la sémiologie, entre le signifiant et le signifié. Elles sont indépendantes de la convention même. Nous avons créé des phonèmes en fonction des différenciations que nous voulions faire. Par exemple, parfois on a deux mots pour deux sens différents mais qui renvoient à un même objet. Par exemple, dans certaines langues, on fait des différenciations que par exemple la nôtre ne fait pas. Par exemple, pig et porc en anglais. Alors, ça désigne le porc, mais il y en a un, on va le bouffer, et l'autre, c'est encore l'animal en vie.
Oui, c'est en fonction de la fonction.
Et après, t'as la tarte à la crème de la sémiologie, qui est les je sais plus combien de façons de dire neige en inuit.
Bien, ça, c'est un gobelet, mais c'est aussi un verre.
Voilà, exactement. Mais en fait, un gobelet, c'est pas forcément un verre, oui. Inversement.
Mais celui-là, en l'occurrence.
Mais on peut voir ça aussi dans notre propre langue. Genre, au-delà de la langue... Je dirais même que chaque individu associe signifiant et signifié indépendamment de la langue même. C'est-à-dire qu'on a chacun un sens propre à chacun de nos mots. Parfois, on a qui n'est pas tout à fait le même que celui que notre voisin ou autrui a. Donc, par exemple, je vais donner un exemple pour bien qu'on soit clair. Derrière le mot rouge, nous ne mettons pas toujours le même rouge. Genre, discussion de la vie quotidienne. Bon, chérie, alors, comme Laurent, il faut bien comprendre que j'ai mis tout ça au féminin, mais c'est parce que je suis hétérosexuel, blanc, cisgenre, de moins de 50 ans, et que donc je me replace dans mon environnement habituel. Bon, tu prends quelle robe ? La rouge ? La rouge ? Ah, tu veux dire la carmin ? Ouais, bah, la rouge, quoi. Ah non, excuse-moi, ça, c'est pas rouge. Là, c'est bordeaux, là, c'est rouge, là, c'est carmin. Et là, généralement, on a ce moment de dépit, on fait... Écoute, chérie, il va falloir qu'on parle. Donc, si nous partons du principe que donc un mot est un sens et que nous ne partageons pas forcément avec autrui, faut-il expliquer de mesurément les questions de notre départ ? Puisque, en gros, si on commence à donner les justifications de pourquoi on se casse, on va donner encore plus de mots avec encore plus de sens qui sont peut-être différemment perçus chez l'autre. Et donc, à la fin, au lieu d'être très clair et plus précis, on devient encore plus bordélique pour la personne qui nous écoute. Donc, entre l'intention louable de vouloir donner des raisons pour atténuer la peine et la réception du message, il y a une énorme marge. L'enfer est donc pavé de bonnes intentions. Plus on en dit, plus le message de base, à savoir « je te quitte », se noie dans la justification. « Je te quitte car je ne suis plus heureux ». Mais je comprends pas, ça allait très bien jusqu'ici. « J'ai besoin d'espace, j'étouffe ». Mais je t'en donne de l'espace tout le temps. Arrête, franchement... genre l'autre jour t'es sorti, je t'ai pas fait une scène. Je te quitte car nous sommes devenus des étrangers. Mais arrête, personne ne te connaît mieux que moi. Attends, j'ai déjà vu ton raptor sur la fesse, je t'ai déjà entendu chier, c'est bon quoi.
C'est un pingouin.
En définitif, le caractère performatif de l'expression « je te quitte » disparaît derrière l'argumentation de l'être quitté. Je te quitte, vous quand on dit « je te quitte », on se plonge dans un autre futur. En fait, on sort du présent de la personne avec qui on est, alors que lui, il est encore dans le passé. Lui, il est dans « je ne suis pas encore quitté, je peux encore me battre, je peux encore converser ».
Il y a une différence de...
On est dans deux temporalités.
C'est ça.
Il veut vous garder pour lui, il ne vous quitte pas, il veut discuter, mais vous, d'un coup, vous ne dites plus rien. Ne jamais ne permettre une issue, car elle provoque l'excès de sens. Bien se souvenir de la chanson d'Adèle. I never found someone like you. Vous avez vu mon super accent anglais. Je ne retrouverai jamais quelqu'un comme toi.
C'est pas ça. C'est never will I find someone like you.
Ok, en gros, je ne retrouverai jamais quelqu'un comme toi. Car cela est un contre-message. Visez la clarté pour votre interlocuteur dans le futur que vous vous êtes donné. Parce que dire « je ne retrouverai jamais quelqu'un comme toi », ça veut dire « mais pourquoi tu me quittes si je suis si exceptionnel que ça ? Puisque tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi, finalement reste avec moi. »
Il vaudrait mieux dire « never will you find someone like me ».
Exactement. Vous n'êtes plus là pour en pas... Alors, parfois, malgré tous vos efforts et vos explications, se passe alors le dernier phénomène, à savoir la quête du sens en relisant vos messages. En gros, arrivé à un moment, vous ne souhaitez plus parler à la personne que vous quittez. Parce que concrètement, elle commence à argumenter sur tout. Elle commence à vouloir remettre tout sur le tapis, vos discussions et vos engueulades habituelles. Et là, vous dites stop et vous commencez un phénomène de ghosting. Vous ne répondez plus. Vous n'êtes plus là pour en parler, donc vos mots ne vous appartiennent plus. Ces mots vont être déchiquetés, reçus et assimilés. Vous n'êtes plus un auteur, vous êtes une rupture. Le concept même de la rupture. Vos mots ne sont plus qu'un sens. Je te quitte. Alors, il se trouve que Roland Barthes, dans Mythologie, dit qu'en réalité, les écrits, dans certains contextes, deviennent les incarnations et deviennent des signes par eux-mêmes. En gros, on avait dit que le sens, c'est le mot, c'est entre le sens et le phonème et la graphie. Là, c'est même plus ça, c'est l'histoire en elle-même, c'est l'événement en lui-même qui devient sens. Vous voyez ce que je veux dire ?
Pas du tout.
En gros, en Oedipe, ça devient le triomphe de l'hubris. Tu connais l'histoire, mais ouais. C'est le mec qui, finalement, par orgueil, devient l'incarnation de l'orgueil. Tu connais pas le mythe, mais dire c'est l'Oedipe, ou dans la psychanalyse, l'Oedipe, tu vois ce que c'est.
Ouais.
Tout de suite, au-delà du mythe. Genre Antigone, l'incarnation de la morale contre la justice, pareil, tu vois, tu lis la pièce d'Antigone, à la fin tu dis tu es une Antigone, ça veut dire que d'un coup tu t'ériges en morale contre la justice.
Oui, du coup, Antigone perd son aspect d'histoire et devient un sens.
Exactement, c'est exactement ça. Et je te quitte, ça devient le fait que t'es tout seul comme une merde. Et que c'est vraiment atroce. Y a-t-il donc un bon message de rupture au regard de tout ça ? Alors, pour écrire cette chronique, j'ai relu pas mal de textes de sémiologie. Roland Barthes, Saussure, Derrida. Alors, il faut bien penser que quitter, c'est rompre. Et en un sens, c'est casser le sens. D'un coup, il y avait un plein et on a créé un trou. C'est comme une mort. Je te quitte, c'est une sentence de mort. C'est le meurtre d'un couple. Et que tout l'essai, finalement, c'est c'est une absence de sens. C'est là où je pense que le meilleur message de rupture, en réalité, il n'existe. Alors, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est que de toute façon, tu sombreras dans l'excès de sens à un moment. Et c'est là où je reviens au moment de tout début de cette chronique où je disais finalement, quand tu te barres avec toutes tes affaires et que tu disparais, on a beau pas le dire, mais le message est très vite compris. Et en un sens, c'est peut-être la meilleure solution à faire. Le meilleur message de rupture, c'est peut-être quand il n'y en a pas. Voilà.
Je m'attendais à un truc de fils de puterie niveau max. Bah, je suis pas déçu.
Alors, est-ce que vous avez déjà largué, été largué et donc eu des messages un petit peu savoureux à nous partager ? Je sens que Marine très inspirée.
Bah, le premier c'était plutôt compliqué parce que nos parents sont amis. Donc au début c'était assez compliqué de se revoir alors que c'est moi qui l'avais quitté. Il pensait que j'avais vraiment quitté pour quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai que j'avais fait croire que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre alors que non. Bah, du moins.
D'où l'excès de sens, tu vois. C'est ce que je disais. Tu vois, si t'en dis trop, c'est le bordel.
Voilà. Le deuxième, c'est je me suis fait quitter. Mais on va dire que il aurait dû me quitter depuis longtemps, mais j'ai fini par accepter du fait que oui, ça allait plus. Troisième, ça a duré que 5 mois. Je sais plus trop ce qu'il disait, mais il m'avait envoyé plein de messages sur mon répondeur et tout. J'ai pas écouté, j'ai directement supprimé. J'ai même déconnecté mon Facebook pour te dire que pour éviter.
Mais je crois qu'en réalité, il y a une vraie angoisse. Enfin, je sais pas pour toi comment tu l'as vécu, mais moi, par exemple, quand j'ai quitté quelqu'un. Cette personne m'a envoyé 46 messages, mon portable cessait de vibrer. j'ai une certaine angoisse en fait à voir d'un coup ton portable vibrer comme si on était en train de biper et que tu avais l'angoisse de la personne qui se jetait sur toi quoi. Et d'un coup tu es là, tu vois ton portable et tu fais j'ai qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Tu as le droit de dire oui parce que le hochement de la tête n'est pas très
En même temps, si tu la quittes, enfin si tu l'as quitté, c'est que tu avais déjà envie que ça s'arrête avant qu'elle t'envoie tous ces messages.
C'est pas faux, mais en même temps, tu vois, récemment, j'ai été très surpris parce que, bon, en gros, moi j'ai quand même quitté une personne avec qui j'étais pendant 8 ans, qui était la mère de mon fils, avec qui je m'étais dit que ça serait très compliqué parce qu'il y avait un enfant au milieu. Et au final, ça s'est mieux passé. Bon, dans les faits, ça reste. Enfin, si tu veux, on est obligé de garder contact à cause de mon fils. Mais au final, on est plus diplomate. Peut-être aussi parce qu'il y a mon fils. Que là, récemment, une relation, bon, bah voilà, qui s'est terminée sur. C'était pas possible. Et quand tu lui expliques que c'était pas possible, tant pis. C'est pas grave en soi. Mais limite, elle a été 100 fois plus haineuse. Et 100 fois plus en colère, elle a vécu ces 5 étapes du deuil tellement puissamment, beaucoup puissamment, qu'une personne avec qui j'ai été resté beaucoup plus longtemps en réalité. Et c'est là où je me suis dit, ouais, le problème du message, le problème de comment tu amènes la chose, comment tu gères ça, et comment faire en sorte que la personne... Parce que bon, je pense qu'on est tous des gens bien autour de cette table, et qu'on ne veut pas que notre prochain souffre. Hein, on est bien d'accord.
Ça, je sais pas, c'est pas moi de juger.
Mais voilà, et quand moi je quitte quelqu'un, c'est pas pour le faire souffrir, c'est parce que c'est plus possible et que c'est comme ça. Et en final, tu te rends compte que ton message de rupture, il est toujours une réelle souffrance pour la personne en face. Il n'y a pas de bon message pour faire en sorte que ça se passe bien.
Moi, ce qui me fait toujours sursauter, c'est la question du pourquoi. Parce que il n'y a pas de raison pour lesquels on tombe amoureux de quelqu'un. Enfin, je veux dire, tu vas toujours chercher des justifications, mais c'est une somme, et puis c'est pas... Comment dire ? Je sais pas si c'est vraiment exprimable. Alors, expliquer pourquoi on est amoureux de quelqu'un, c'est déjà dur. Expliquer pourquoi on n'est plus amoureux de quelqu'un, ça devient absurde, en fait.
Les sentiments ne se contrôlent pas.
Oui, mais quand bien même, un couple, c'est quand même quelque chose de relativement construit. Donc, quand bien même, bon, moi, je t'avoue que même si les sentiments ne se contrôlent pas et que tu peux te réveiller à un moment avec « Ah bah tiens, je l'aime plus », ça peut arriver, hein, on est d'accord. Ça n'empêche que c'est quand même une construction et que, par exemple, tu vois, la mère de mon fils, elle n'a pas compris. Parce que c'était une construction de pendant 8 ans, qu'il y avait l'enfant, qu'il y avait l'appart, et que d'un coup, il n'y a plus rien. Et bizarrement, peut-être qu'il n'y avait plus rien depuis longtemps, parce qu'elle l'a accepté d'autant beaucoup plus facilement, toi. Voilà.
Tu l'as habitué ? C'était mûri ?
Non. Disons plutôt que... Je pense que ça faisait un an que c'était plus ou moins en substance là, qu'on se parlait de moins en moins. De toute façon, on va parler après, on va faire le retour sur expérience, mais on ne se parlait plus. Si tu veux, la communication se résumait à une vie en commun, à la gestion de la vie en commun.
Oui. Genre, est-ce que tu as préparé à manger, ce genre de choses, tu as fait les courses.
Exactement.
Tu as pendu le linge.
Donc, c'est le moment de faire un peu le retour sur expérience.
Je voudrais réagir à une dernière chose.
Ouais, vas-y, dis-moi.
Voilà.
De toute façon, on trappe. Ouais, non, je dis ça.
C'est juste parce que j'ai loupé le moment pour la faire et je tiens à la faire, cette blague.
Oui, vas-y.
C'était quand tu parlais de la, comment dire, l'aspect relatif du langage. Genre, pour toi, un mot ne va pas vouloir dire la même chose que pour moi. Par exemple, il y a des gens, ils ont les cheveux verts et puis ils se bornent à dire qu'ils sont bleus.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Voilà, c'est tout.
D'accord. Bon.
On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Alors on va faire un petit retour sur l'expérience. D'abord, est-ce que vous êtes plutôt des gens qui sont du genre à rompre ou plutôt des gens qui se font larguer? Qui veut commencer? Marine?
Moi je suis du genre c'est moi qui romps.
Alors, c'est toujours Marine au premier.
Parce qu'en fait.
Les femmes d'abord, ok,
mais,
d'accord.
Non, mais en fait, dans mes relations, j'attendais toujours qu'ils viennent me larguer, mais comme ça se faisait pas, ben, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et c'est ça qui était chiant, parce que ben, comme je sais pas m'y prendre, ben, à chaque fois, c'est la catastrophe.
Parce que tu te sens peut-être pas aimée à chaque fois?
Non, c'est. Bah, mon père me disait que, tu vois, on disait que nos parents, ceci, cela. Mon père me disait, toi, t'es du genre à te lasser vite. Alors que non, parce que quand je suis amoureuse, je donne toute mon énergie pour cette personne. Sauf qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas d'évolution sur le truc, ben, forcément, tu stops. Et c'est compliqué, parce que moi, j'ai toujours fait par message, parce que je ne voulais pas voir les gens pleurer ou souffrir, quoi que ce soit, pour ne pas...
Ah ouais, t'es le genre de personne qui se dérobe complètement et qui genre...
Ah mais j'assume totalement ça.
Tu vas pas frontalement, quoi.
Non, je. Mais après, si, bah, mon dernier.
Tu l'as largué comment, ta dernière, toi?
Non, on peut pas me dire ça. Je l'ai appelé au téléphone parce qu'elle habitait quand même à 500 km de chez moi. Mais je l'ai appelé et je l'ai eu vocalement. Ah non. Donc, oui, Marine, on revient sur toi.
Ma dernière relation, après, si, une semaine après, on s'est revus pour se redonner nos affaires et en parler. Mais ce qu'il comprenait pas, c'est que oui, dans un sens, mes sentiments avaient diminué et c'était plus possible pour moi. Après, je voulais pas non plus le faire culpabiliser du fait qu'il y avait une partie de sa faute et que déjà, le fait de le quitter, c'était déjà douloureux pour lui. Donc, je voulais pas en rajouter, en faire des caisses.
Ah ouais, donc c'est jamais de la faute. Quand tu largues quelqu'un, c'est jamais de sa faute.
C'est pas toi, c'est moi.
Non, mais j'ai même pas dit ça. Je dis plus rien.
Oui, mais c'est...
Il est flippant, putain.
Alors, Marie, je t'écoute.
Alors, je demande à tous nos spectateurs et nos auditeurs de nous pardonner pour le rire de bête.
J'en peux plus. On vient de perdre des auditeurs, c'est pas grave. Je couperai ça au montage. Mais donc, vas-y. Donc non, c'est jamais de la faute de l'autre.
Oui, mais j'ai jamais dit que c'était de ma faute non plus. Je lui ai dit, les sentiments, bah voilà, c'est la vie, quoi. Il y a des trucs, tu peux
mais
pas...
Alors, c'est la faute de qui? Moi, dans mes ruptures, je dis bien, généralement, il y a une sombre et...
Pourquoi ça serait la faute de quelqu'un?
Je dis pas que c'est la faute de quelqu'un, c'est plutôt...
C'est ça, pourquoi ça serait la faute de quelqu'un?
C'est plutôt l'amour est une équation, et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Et aujourd'hui, par exemple...
Une équation.
Oui, c'est plutôt... Je suis A, tu es B, et AB, c'est pas possible. Parce que c'est répulsif, et que voilà. Donc c'est un peu de ta faute, c'est un peu de la mienne, et basta, et c'est la vie.
Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment la faute aux gens, dans certains cas, tu vois, c'est...
J'aurais
jamais dit ça.
Je sais pas.
Pourquoi tout
c'est pas la faute aux gens.
Pour moi, c'est comme certaines relations, c'est comme vouloir faire du vélo à un unijambiste. Bah voilà, je suis un vélo, t'es unijambiste, t'arriveras pas à faire du vélo,
j'ai
c'est
la
terminé.
Solution, en fait. C'est la faute à personne, si rompre, c'est pas grave.
Oui, mais c'est tout. Parce que la rupture, c'est jamais grave selon toi. Parfois, c'est pas grave. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours grave une rupture en réalité.
Oui, mais faut relativiser, faut voir le verre à moitié plein.
Alors,
non, je dis ça, mais je vis toujours mal mes ruptures.
Justement, alors, mais ça affecte beaucoup.
C'est le moment où on parle de toi, Laurent. Alors, dis-moi, c'est plutôt quelqu'un qui largue ou qui se fait larguer?
Ah, moi, je me fais carrément larguer.
et généralement, alors, bah, justement, on a l'inversion inverse de Marine. Puisque Marine disait qu'elle est plutôt quelqu'un qui largue. Et tu te fais larguer généralement pour quelle raison? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une espèce de régularité dans le largage?
Pas particulier. Enfin, les deux premiers. Non, les deux du milieu. Les deux du milieu, ouais. Non, les trois premiers en fait.
Non, mais là,
ouais, du coup, il y a
perds.
Une petite régularité, effectivement. En fait, moi, c'est juste que
Ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis un grand romantique et je suis extrêmement, démonstratif, etc. Et du coup, ça peut arriver que je sois envahissant. Non, je dis ça.
Salut chérie, pour fêter notre un an en couple, j'ai offert une Mercedes-Benz. C'est toute la preuve de mon amour. Non ?
Non, 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 peut-être pas ce point-là. Non, non, mais c'est juste... envahissant, c'est peut-être pas le bon mot. C'est juste que je suis...
présent.
Comment dire, très présent.
D'accord.
Voilà, tu vois, genre, je réclame de l'attention, ce genre de choses.
Donc, toi, t'en souffres... Alors, est-ce que, justement, l'argueil et l'argueur, vous en souffrez ? Et de quelle manière vous en souffrez ? Qu'est-ce qui vous fait souffrir, en fait, dans la rupture amoureuse ? Marine, Laurent. Tout à l'heure, on a commencé par Marine. T'es-t'en inspiré ? Qui se sent inspiré ?
Je laisse Laurent s'exprimer, je m'exprimerai après.
Oh, dis donc. Qu'est-ce qui me fait souffrir dans la rupture amoureuse ? C'est le fait de me dire que je suis pas indispensable. Non, c'est pas du tout le bon terme. Je vais pas réussir à trouver le bon terme de toute manière.
En gros, c'est que d'un coup, t'étais indispensable et tu ne l'es plus. T'étais valorisé, tu ne l'es plus. Tu étais pris pour quelqu'un. Comment dire, tu existais.
Non, mais c'est un peu un échec en quelque sorte.
C'est l'aspect échec, toi, qui te fait
ouais,
souffrir.
Ouais, c'est ça. C'est pas tant la perte d'une personne ou quoi que ce soit. C'est, je me dis, il y a quelque chose que j'ai loupé quelque part et que j'ai pas su voir. Et du coup, c'est plutôt un échec dans l'exercice intellectuel qui me.
D'accord. Voilà. Je vois à peu près. Et toi, Marine, alors, est-ce que tu souffres quand tu largues et pourquoi tu souffres si tu souffres?
Ben, c'est vraiment compliqué en fait. Attends, tu peux reposer ta question.
Bah, la raison, c'est est-ce que tu souffres quand tu largues et parce que toi, ben... t'es plutôt du genre à larguer. Est-ce que t'en souffres? Est-ce que t'as un moment où tu te sens pas bien?
Ah, ben, clairement, oui. Parce que ben, tu culpabilises forcément. Tu te demandes si c'est pas sur. Tu te poses la question déjà si c'est pas sur un coup de tête et tout. Et moi, je suis du genre à me tracasser pour rien, à stresser pour rien. Donc oui, pour te dire, hein, pour ma dernière relation, avant de le quitter, les 2 mois avant, j'en faisais des cauchemars. C'est, en
attends,
fait...
t'as mis 2 mois à le quitter ?
Oui.
Ah oui, t'es une audacieuse, toi.
Elle a bien préparé.
T'es patiente, t'es patiente. T'as vraiment mûri ton truc.
Bah,
j'ai rien à dire. Moi, j'ai mis 4 ans peut-être à quitter la mère de mon fils.
Voilà, mais et pour te dire, j'en faisais des cauchemars. En fait, dans mes rêves, dès qu'il me touchait, j'en pleurais, tu vois.
Bah justement, on pourrait. Est-ce que avant de quitter ou avant d'être quitté, vous avez vu des symptômes de ce qui allait arriver ? Par exemple, je vous donne un exemple. Il se trouve que une des personnes que j'ai quittées, elle a arrêté de coucher avec moi, par exemple. Donc une vie sexuelle assez pauvre, etc. Et c'était clair que ça allait pas bien, que c'était dysfonctionnel. Est-ce que vous aviez vu des signes avant-coureurs et vous vous êtes dit, bah tiens, là, ça le fait plus ?
J'avoue que
généralement c'est une analyse a posteriori, on est bien d'accord, hein. C'est-à-dire c'est pas sur le moment où vous faites voilà,
oui, bah,
et
bien
à
sûr, parce que sinon on se fait pas larguer. Ça me semble assez évident que si tu te dis oh, il y a anguille sous roche, j'ai un petit problème. Est-ce que non
bon
non, non mais moi je bon. J'ai pas des signes avant-coureurs, je sais pas ce que t'entends par là.
Bah, je sais pas, je te dis, moi par exemple, je couchais plus avec la personne avec qui j'étais, ou je commençais à me dire que je me projetais plus.
Est-ce que tu penses que le sexe, c'est... enfin l'amour, c'est dépendant du sexe ou un peu ?
Alors, je ne le pensais pas quand j'étais avec ma première relation très sérieuse, je le pense aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, que le sexe, c'est 50%, si ce n'est 75% de couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le sexe, il y a beaucoup de choses. Il y a la découverte de l'intimité, Alors, je sais que des gens ne seront pas du tout d'accord avec moi, mais peu m'importe. Il y a une partie de l'intime, c'est-à-dire que tu dis des choses sur l'oreiller ou avant, après ou pendant le sexe que tu ne dirais pas ailleurs. C'est comme, si tu veux, c'est comme les 15 minutes avant, après la consultation chez ton médecin généraliste. On dit que c'est les plus importantes parce que c'est le moment où d'un coup tu fais « Et au fait, il y avait ça aussi. » Et d'un coup, tu te lâches et tu te racontes toutes ces choses. Et bah, dans un couple, c'est le moment du rapport sexuel. Deuxième chose, c'est le moment où tu te sens désiré et accepté entièrement.
Tant que tu le fais après le rapport, ça va.
Oui, avant, peut-être avant.
Pendant. Mais
en un sens, ça partit. C'est pas comprendre. Hé, hey, au fait, je voulais te dire, ça va pas bien dans ma vie en ce moment.
Oui, non. Elle n'aura fait plus jamais de vie, mec.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se joue dans l'intimité, en fait, dans le rapport sexuel. Tu te livres, et en un sens, ça participe au fait que tu vas te livrer. Voilà. Et au-delà de ça, ça participe aussi vachement à la construction de ton ego, parce que tu te sens désiré et désirable. Et que ça, c'est vachement important. Et en plus de ça, généralement, si tu fais un peu l'effort pour la personne avec qui t'es pour lui faire plaisir, et en même temps, elle fait aussi un peu un effort pour te faire plaisir. Donc, en un sens, ça veut dire que t'es valorisé et accepté dans ce que tu es différent. Donc, en un sens, dans le rapport sexuel, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui se jouent. Et quand il y a moins de sexe, ça veut dire que finalement, vous êtes moins intime, vous êtes moins désiré, etc.
Tu étais en train de dire que du coup, on se confessait sur l'oreiller dans un but, comment dire, c'est un peu une convention sociale parce qu'on le fait pour faire plaisir à l'autre et l'autre, il nous écoute pour nous faire plaisir.
Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que c'est un facilitateur de communication.
Ouais.
Voilà, c'est plutôt d'accord. Ça, c'est que d'un coup, parce que vous avez une relation sexuelle, on va dire que c'est sympa, le fait que vous en rigoliez ensemble, le fait que ça soit bien passé, a favorisé une intimité qui a favorisé la communication. Voilà, c'est plutôt ça.
Ok.
Marine, un avis ?
Pas trop.
C'est un peu comme faire un jeu de société, en fait.
Exactement.
On apprend beaucoup de choses sur les gens en faisant des jeux.
Ah, oui, ok, oui. Ah.
Je voulais te dire, Marine, tu es très belle ce soir.
Bien sûr.
Et je pense que c'est le moment de balancer l'instant LOL. Vous avez réfléchi à quel est le truc positif de votre semaine ? Moi, j'ai un truc direct. Je balance le jingle et après, j'ai un truc direct. Au pire, vous me laissez parler pendant les 15 minutes qui suivent. Il n'y a pas de problème. Je vais vous raconter.
Ouais, d'accord. Voilà. Je vais me prendre la tête pendant 5 minutes. Vas-y.
MSN. Bon, alors très honnêtement, voilà, pour préparer l'émission, j'ai cherché tous les trucs de rupture, toutes ces chansons de rupture pour préparer les jingles. Et il se trouve que j'ai une énorme recommandation à vous faire ce soir. Une énorme recommandation à vous faire. Je suis venu te dire que je m'en vais de Serge Gainsbourg. Alors pourquoi ? Parce que, à part la première chanson qui est Je suis venu te dire que je m'en vais, qui est une chanson relativement sérieuse. Tout le reste de l'album est une espèce de pamphlet haineux envers la personne qui largue. Ça parle de cul, ça parle de mépris, ça parle de plein de choses. Et c'est drôle et à la fois c'est cruel comme album.
Ça va souvent ensemble.
Et c'est super bien écrit. Et l'autre jour, et j'ai réécouté là en arrivant tout à l'heure avant l'enregistrement, la chanson qui s'appelle Pampan Cucu. Et c'est d'un niveau où tu te fais waouh, c'est génial. Voilà, et donc ça m'a vraiment, vraiment. Voilà, je recommande ce soir cet album. Je suis venu te dire que je m'en vais de Serge Gainsbourg. Voilà, est-ce que vous arrivez à un truc d'heureux cette semaine ?
Un truc heureux.
Genre, alors Marine, moi j'ai une idée pour toi. Je peux t'en dire je peux te le dire tout de suite. Parce que j'ai remarqué que tu avais changé. Alors pourquoi tu as changé ? Visiblement, tu es parti à la campagne et tu as l'air fraîche. Et à chaque fois que tu es à la campagne, tu nous envoies des messages en mode « Ouais, je suis à la campagne !» Alors que généralement, quand tu es chez toi, tu nous fais « Ouais, je suis avec mes chats. » Et là, d'un coup, on t'a... Ouais, Laurent me faisait la remarque « Que t'arrive-t-il quand tu es à la campagne comme ça et que tu es... Est-ce que... Je sais pas, ça te refait les hormones ?»
Je suis seule. Je me ressource. C'est ce qu'il y a de mieux. Je vois pas les gens. Bah, très petit, et j'ai vu des gens ce week-end. Et puis mon père, il met de la moutarde quand il cuisine. Ça, c'est cool.
Tu veux dire dans la sauce bolognaise, par exemple ?
Non, là, c'était une sauce à la crème pour les escalopes.
Non, mais ça, c'est normal. Par contre, dans la sauce bolognaise et dans la pizza, c'est anormal.
Non, il en met aussi.
Je pense que c'est une cause de rupture, ça, Marine.
Non.
Et Luc est d'accord. Pas de moutarde dans la raclette. Parce que
dans
tu
les patates.
Non. D'ailleurs, nous allons lancer un sondage sur notre gang TV pour savoir si oui ou non c'est normal de mettre de la moutarde lors d'une soirée raclette.
Oui.
Voilà, Laurent, vote déjà non. Nous sommes à non. Luc, vote non. Tu es 3 contre 1.
Moi, clairement, je viens de faire le soupir inspiré du refus.
Et toi, Laurent, un petit. De toute façon, tu avais un détail à nous partager sinon, Marine ? Non, ok, vu ta tronche surprise, on va t'arrêter là. Laurent, un détail heureux de ta vie en ce moment ?
Un détail heureux, peut-être pas, non. un détail amusant, toujours en lien avec Marine.
Mais Marine, tu es notre lumière, tu es notre poulpe blond, tu es, je sais pas, tu es, quand on te regarde, nous sommes refaits, tu es notre égérie, tu es notre amour, tu es notre Francis Cabrel.
Calme tes hormones, c'est trop tard pour le coup de foudre.
Oui, ça aurait dû se passer il y a 0,34 centièmes de seconde, ouais, je sais. Peux-tu partager 40 000 parasites avec moi ?
Non. Clairement pas.
C'est dégueulasse.
Clairement.
Non, le moment rigolo que j'ai eu cette semaine, j'ai une pensée extrêmement émue pour toi, Marine, mais sincère. En ce moment, j'héberge un ami à la maison. Et l'autre jour, il se faisait des tartines de rillettes. Là, on se dit, génial, ça commence bien, il va parler de la bouffe comme d'habitude. Et en fait, il s'avère que cet homme, plutôt que de mettre des cornichons comme de bon aloi dans ses rillettes, il met de la moutarde. Il faudrait que je te le présente.
Quel homme. Quel homme.
Et peut-être que c'est la fin des ruptures amoureuses pour Marine qui commence.
Exactement.
Alors, non. Je préfère choisir moi-même la personne.
Mais t'as pas besoin de choisir. C'est clairement l'homme de ta vie.
Oh bah, ça me semble évident. Voilà.
Non mais...
Bon, alors, on va pouvoir conclure l'émission. Pour conclure l'émission, d'abord, on va vous faire un petit rappel réseaux sociaux. Alors, d'abord, nous avons la page Nootgang TV qui va devenir, je pense, notre agrégateur de contenu. C'est-à-dire que vous retrouverez tous les contenus du Nootgang TV sur la chaîne Nootgang. Ensuite, vous avez, on va ouvrir la page Dimanche Dépression. Comme ça, tous ceux qui veulent suivre que Dimanche Dépression, qui écoutent l'audio et qui veulent voir le live Twitch, ils pourront nous retrouver ici. Depuis hier soir sur Spotify, et je pense lundi, ou peut-être, j'espère, dans les 10 prochains jours au moins, parce que le problème, c'est que je ne sais plus quand est-ce qu'on est... on va dire quand la soumission se passe sur iTunes. Mais en gros, on sera sûrement sur iTunes la semaine prochaine. J'espère.
On vous fera une annonce sur la page.
Donc, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles et à nous mettre des commentaires. Genre, Marine, elle est bonne à l'image. Nous, on aime bien ce genre de commentaires un peu sexistes.
Faites péter les likes.
Voilà, c'est notre caution femme à nichon sur Twitch. Elle peut devenir notre caution voix féminine sur... voilà. Et nous saluons tous nos amis féministes. Voilà. C'était vraiment un bon moment sexiste. Que vous dire de plus ?
Vous pouvez sexiste depuis le début, à chaque fois, l'autre, elle est féminine.
Oui, c'est vrai. Vous pouvez aussi suivre notre compte Twitter. Marine a un superbe compte Instagram que vous allez pouvoir aller suivre, qui est l'Ekekonout. C'est elle qui nous fait...
C'est les Kekos.
C'est les Kekos tout court, c'est vrai. C'est les Kekos et parce qu'elle nous fait nos superbes
visuels.
Qui n'est pas un logo.
Qui est aussi beau visuellement qu'elle l'est.
Elle va nous changer ça très prochainement.
Voilà. Vous pouvez aussi dire bonjour à Luc. Bonjour Luc. Voilà. Et sur ce, nous allons arriver au moment ASMR de l'émission.
Laurent.
Et c'est Laurent qui va nous lire de façon ASMR. Que vas-tu nous lire ?
Je vais vous lire un extrait de 1984, mais toujours en lien avec les ruptures amoureuses. Vous connaissez le fameux bouquin de George Orwell.
Sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous avez envie de parler de quoi ? Et voilà, je vous prends dépourvu, vous êtes dans les aides à la merde.
De vie.
Luc veut parler de viol. Bon, eh bien, nous allons... c'est bien, on finit sur remarques sexistes, on enchaîne sur le viol. Non,
alors,
tout va bien.
Vu qu'on parle de sexisme, on peut peut-être parler du patriarcat, ça peut être une bonne idée.
Wow, wow, wow. Ok, pourquoi pas. Écoute,
on peut parler du diktat masculin.
Oui, c'est
ça. Et pas que féminin.
Je sens qu'on va vraiment passer une bonne soirée dimanche prochain. Bon, sur ce, nous allons donc lancer la séquence ASMR. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Marine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Laurent. À la semaine prochaine, Luc. Luc, tu es très très beau. T'aimes. J'adore le fait que tu viennes en peignoir à chaque fois pour nous faire la technique. Je t'aime beaucoup.
Merci, Luc.
Allez, sur ce, à bientôt.
Son visage était plus blême, et une longue cicatrice, aux parties cachées par les cheveux, lui traversait le front et la tempe. Mais ce n'était pas en cela qu'était le changement. C'était que sa taille avait épaissi, et s'était roidie d'une façon étonnante. Elle se souvint avoir une fois aidé, après l'explosion d'une bombe fusée, à sortir un corps des décombres. Il avait été étonné, non seulement du poids incroyable de la chose, mais de sa rigidité et de la difficulté éprouvée à la manier. Cela ressemblait à de la pierre plutôt qu'à de la chair. Le corps de Julia donnait cette impression. Il sembla à Winston que la texture de sa peau devait être aussi tout à fait différente de ce qu'elle avait été. Il n'essaya pas de l'embrasser et ils ne se parlèrent pas. Tandis qu'à l'inverse, elle le regarda en face pour la première fois. Ce ne fut qu'un coup d'œil rapide, plein de mépris et de dégoût. Il se demanda si ce dégoût venait du passé, ou s'il était aussi inspiré par son visage boursouflé et les larmes que le vent continuait à faire couler de ses yeux. Ils s'assirent côte à côte sur deux chaises de fer, mais pas trop près l'un de l'autre. Il vit qu'elle allait parler. Elle avança les quelques centimètres sa chaussure grossière et écrasa du pied un rameau. Il remarquait que ses pieds semblaient s'être élargis. « Je vous ai trahi, » dit-elle méchamment. « Je vous ai trahi. »